Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Caroline Chaumarin. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors nous recevons ce jour une jeune femme, romancière, professeure de lettres, passionnée et passionnante, certainement hyperactive, un peu globe-trotteur aussi. Nous allons passer une heure avec elle, nous à Toulouse et elle en Andorre, où elle enseigne aujourd'hui. Bonjour Caroline Chaumarin.
Bonjour.
Et bonjour à Chloé Morand-Bridet, ma camarade de radio qui animera cette émission à mes côtés.
Bonjour.
Merci d'être avec nous des montagnes andorranes, Caroline Chaumarin. Alors, vous êtes enseignante, c'est toujours très compliqué quand on n'est pas en studio en présentiel, mais nous allons y arriver. Vous êtes, je l'ai dit en démarrant, vous êtes enseignante, mais vous êtes beaucoup occupée des jeunes avant d'aller vers cette voie professionnelle, puisque vous avez fait un BAFA. C'est le brevet d'aptitude, je ne sais plus à trop à quoi.
En fonction d'animateur.
Voilà. Donc vous étiez déjà attiré par les jeunes, par la formation, par l'éducation. C'était une tradition familiale pour vous ou c'était un goût personnel?
Ah, c'était un goût personnel. Ma maman a été animatrice, mais je ne l'ai pas connue animatrice, je l'ai connue toute autre chose. Donc je pense que c'est... un goût personnel, j'aime bien enseigner, transmettre, et de toute petite, je suis avec les classes plus jeunes pour discuter avec les plus petits.
Vous êtes allé faire une licence de lettres classiques à l'université de Perpignan. Pourquoi ce choix? Pourquoi les lettres classiques? Pourquoi pas les maths, le droit, la médecine, que sais-je?
Alors les maths, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu d'elles, c'est elles qui n'ont pas voulu de moi. Tout ce qui est médecine et sciences, je pense qu'on est dans le même cas, et lettres classiques parce que je n'avais pas compris que nous n'étions plus au 19e siècle et que je me voyais archéologue, égyptologue et chercheur avec le petit pinceau.
Mais il y en a encore pas mal d'archéologues avec le pinceau à quatre pattes.
Mais après, j'ai compris qu'il fallait quand même que ce soit très long, les études. Et il y a un moment où j'ai voulu me lancer dans la vie. Donc, j'ai préféré revenir à mes premiers amours, la jeunesse.
Et donc, le CAPES, après, à l'UFM de Toulouse, c'est ça?
Oui. Oui.
Donc, l'enseignement, pour vous, les jeunes, l'enseignement, c'était la voie classique. Pas du tout dans la tradition familiale, si on a bien compris.
Ah non, 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 du tout. Non, j'ai un papa artisan, électricien, et ma maman travaillait pour l'État, mais à la préfecture.
Et alors, dans votre parcours étudiant, j'ai vu que vous avez suivi aussi une formation d'accompagnateur culturel, c'est ça? Qui était surtout autour de l'Italie et des cultures méditerranéennes. Pourquoi cet attrait pour ces pays?
Alors, en réalité, nous avions une formation qui s'appelait Histoire des idées, qui était passionnante. Et que nous pouvions suivre les 3 années d'université. Et finalement, en fin de parcours, on nous a proposé un voyage de validation et de formation. Je crois qu'à 19 ans, quand on vous propose un voyage de formation à l'université, on saute dessus. Oui. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'on a eu des heures à préparer et c'était extraordinaire de se lancer là-dedans.
Quand on fait une licence de lettres classiques, quels sont les enseignements de cette licence ?
Alors, à l'époque, parce que je crois que ça a changé, à l'époque, nous avions du latin, du grec, de la philologie latine, de la philologie grecque, et après, toutes les disciplines qu'on récupère des lettres modernes.
C'est-à-dire ?
Donc, littérature comparée, littérature... moi, j'avais choisi littérature du Moyen-Âge, qui est un petit peu... Enfin, pas littérature, langue du Moyen-Âge, qui est très compliquée, et où je n'excellais pas, Mais le prof étant excellent, j'y suis restée pendant tout le temps. Il a bien accepté de me garder.
Et ce CDU que vous avez fait, imaginaire et art, ça consiste en quoi ? C'est curieux de rapprocher ces deux mots, imaginaire et art.
Oui, alors c'était vraiment lié à l'histoire des idées. C'est-à-dire que la première année, je me souviens bien des cours sur les archétypes majeurs. Alors le cercle, le carré, le rond, le cercle, le carré, le triangle. Et les professeurs connectaient plusieurs cultures pour leur donner du sens. Et c'est vrai que quelqu'un qui ouvre les yeux sur un sens qu'on n'avait pas vu, c'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, les années suivantes, on a approfondi en étudiant de façon plus spécifique, soit certaines religions, soit certaines œuvres d'art, et toujours en interconnexion. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup influencé dans mon regard sur le monde.
Et le fait d'avoir étudié le latin, le grec, ça vous a aidé ou ça vous a fait aller dans cette direction ?
Alors, ça m'a, oui, alors le latin et le grec m'ont aidé. Même chose, j'ai l'impression que les gens qui ont fait latin et grec ont une paire de lunettes particulières qu'ils posent sur le monde. Et c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui prennent sens pour nous. Et quand on en parle, les gens nous écoutent avec émerveillement parce qu'on décode certaines choses. Donc, ça leur donne l'impression de découvrir à la fois de redécouvrir l'objet ou de redécouvrir la notion tout en ayant l'histoire des mots. C'est un peu ce que faisait Alain Rey autrefois lorsqu'il prenait un mot et qu'il expliquait l'histoire du mot. Parce qu'en étudiant l'histoire d'un mot, finalement, on s'interroge sur l'histoire des hommes qui l'ont utilisé.
Alain Rey et son fameux dictionnaire culturel.
Voilà, son dictionnaire. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pris le dictionnaire étymologique de la langue française et c'est vrai qu'il ne me quitte pas depuis que je l'ai. Je m'en sers beaucoup dans les cours, je le montre aux enfants, ça leur plaît.
Et alors, après toutes ces années d'études, vous avez arrêté donc en 2000 avec le CAPES et puis vous avez repris 15 ans plus tard. Et pourquoi ? Alors, certification complémentaire en histoire des arts, pourquoi ce choix ?
D'abord parce que dans l'éducation nationale, il y a eu une réforme qui a fait qu'on a eu un oral d'histoire des arts pendant un temps qui s'est transformé en autre chose. Et finalement, je me suis rappelée à ce moment-là que toutes mes années en Italie pouvaient être validées pour se mettre au service de mes employeurs, finalement, de l'État, puisqu'on manquait de professeurs pour faire passer aussi le bac. Donc ça m'a servi dans mon collège pour asseoir un petit peu mes projets, mais ça m'a surtout servi, et ça a un petit peu aidé sur place aussi, pour faire passer le bac aux élèves qui choisissaient cette option, parce qu'on faisait venir des gens de Paris ou des académies métropolitaines, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un qui est sur place, l'oral se passe différemment, parce que c'est une option qui doit s'ancrer dans le territoire. Donc j'étais souvent en binôme avec quelqu'un d'une académie métropolitaine qui amenait, lui, sa vision des programmes. Mais c'est vrai qu'être quelqu'un du terroir martiniquais, oui, quelqu'un qui porte finalement, parce qu'il a sillonné le paysage, les différents points de culture de la Martinique, ça permet aussi aux enfants de les expliquer et d'avoir en face quelqu'un qui les reçoit et pas forcément quelqu'un qui les découvre.
La formation que vous avez reçue vous a semblé satisfaisante, suffisante lorsque vous vous êtes retrouvé devant des classes ?
La formation initiale, une fois qu'on a passé le concours, qui est quand même un concours majoritairement disciplinaire, il y a un examen, alors peut-être a-t-il changé, mais de mon temps, il y avait un examen en didactique. La formation réelle à l'accueil d'une classe se fait la deuxième année, c'est-à-dire quand on a déjà une classe.
Ça arrive un peu tard, donc.
Disons que, en même temps, je pourrais dire oui, que ça arrive un peu tard, et en même temps, je me dis qu'il y a des questions que l'on ne se pose pas quand on n'est pas en contexte. Et c'est vrai que je le vois par exemple aussi avec mes élèves. Hein. Je peux faire une leçon sur une notion avec des exercices, avec une mise en situation. Finalement, ils ne se rendent compte de la nécessité d'étudier cette notion que quand ils ont eu une évaluation dessus et que là, ils ont vu qu'ils en avaient besoin. une évaluation de type brevet blanc ou bac blanc, quelque chose de gros, quelque chose qui leur montre qu'il y a un besoin. Et peut-être que, enfin, il me semble qu'être déjà en classe en ayant et avoir la formation en même temps, finalement, ça a fait naître l'analyse des situations, donc des besoins, et l'UFM quand même permettait d'y répondre d'une certaine façon, même si, j'avoue, je n'ai pas été passionnée par toutes les formations, mais je pense qu'il en est de même de mes élèves qui ne sont pas passionnés par tous mes cours.
On ne peut pas le croire, ça. Oui.
Alors, c'est une bonne transition pour parler de votre parcours professionnel, du coup, je pense. Vous avez commencé en 2000 avec un stage aux arènes. Donc, quand vous dites les arènes, je suppose que vous parlez du lycée des arènes de Toulouse, c'est ça ?
Oui.
Dont nous avons à la technique un digne représentant, Marco, voilà, qui assiste notre technicienne Tiffaine et qui est là en stage. Donc les arènes sont toujours là, bien vivants depuis votre départ.
Tant mieux, parce que quand j'ai été en Martinique la première année et qu'il y a eu l'explosion d'AZF, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai cherché un petit peu partout ce qui était arrivé là, parce que c'était quand même un lycée de verre. Donc ça m'a beaucoup inquiétée. Et comme j'y ai passé du bon temps, c'est vrai que je suis encore liée émotionnellement, on va dire, à ce lycée.
Votre parcours professionnel, vous avez eu de la chance parce que vous n'avez jamais dépassé une ligne Cahors, finalement. Vous êtes toujours resté au sud. C'est assez rare, non, chez les enseignants ? Comment vous avez fait ?
J'ai fait une petite échappée. Non, j'ai fait une petite échappée dans le nord à Lens, dans le 02.
Ah oui, là, je me demandais où c'était parce que, effectivement, c'est le grand nord pour nous, oui.
C'est au bout du monde, en fait. C'est l'endroit où on comprend les cours d'histoire qu'on a eu en terminale quand on est un méridional. C'est l'endroit où, quand un enfant crache par terre, son crachat congèle en moins de 5 secondes. Et du coup, là, on comprend le cours d'histoire que nous faisaient les profs en nous expliquant que les tranchées, c'était terrible. Parce que quand on nous explique l'hiver dans les tranchées à Perpignan, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer l'hiver dans le nord de la France. Quand on a vu là, on commence à avoir vraiment la perception de ce qu'ont vécu ces garçons.
Et donc, juste après les arènes, vous partez directement en Martinique, en fait. Vous avez passé une seule année en France en tant qu'enseignante. Pourquoi la Martinique ?
Alors, on va venir, Chloé, je vous coupe, va venir en deuxième partie, parce que ce qui nous intéresse, entre autres, chez Caroline Chemaret, c'est son expérience de... Alors, on ne va pas dire de l'étranger pour nos amis martiniquais, qui est un département d'outre-mer, mais après, vous êtes aujourd'hui en Andorre, donc deux expériences professionnelles, on peut dire, loin de la métropole, au moins pour ce qui est des DOM, du DOM Martinique. Donc, on y viendra tout à l'heure. Mais... Comment on est reçu quand on arrive dans un collège, dans un lycée, en venant de l'extérieur ? Est-ce qu'il y a, vis-à-vis des collègues, on est bien reçu, on est intégré, ou est-ce que c'est compliqué ? Surtout quand on vient du Sud, vous êtes arrivé à Lens, par exemple, avec votre accent de Perpignan, c'est bien passé ?
Ah oui, franchement, le lycée de Lens, j'en ai un très bon souvenir. Je suis partie parce que c'était le moment où les retraites d'une certaine catégorie de professeurs libéraient des places dans le Sud. Mais en réalité, j'y serais restée. S'il n'y avait pas eu cette ouverture et si je ne m'étais pas dit, bon, c'est maintenant, enfin, c'est pas moi qui me le suis dit, pas souvent faire des calculs pareils, mais bon, si on ne m'avait pas dit c'est maintenant, et si tu as peur de le regretter, il faut redescendre, je serais restée à Lens parce que l'ambiance, il était... très agréable.
Plus agréable que dans le Sud ?
Non, mais c'est vrai que dans le Nord, finalement, quand on est un jeune prof, être muté comme ça immédiatement dans un lycée qui a pour habitude, parce qu'on avait deux lycées à Lens, et le lycée Paul Claudel était celui qui était vraiment pour les gens, en fait, pour les usagers, tourné vers la littérature, être à 25 ans devant des élèves de lycée, dans un si beau lycée que celui-là, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans le Sud quand on arrive et qu'on est certifié. Finalement, on n'a rien pour avoir ces postes-là quand on est jeune. Ni les points, ni l'agrégation, ni la légitimité que donnent soit des années d'attente, soit l'agrégation. Donc c'était une chance d'être là-haut. Et c'est vrai que dans le Nord, bon, ben, on monte en général en faisant la tête parce que on est toujours de Perpignan finalement, ou on est toujours de Toulouse, mais certaines portes s'ouvrent qui ne se seraient pas ouvertes si naturellement ailleurs.
Lorsque on arrive dans un... On verra tout à l'heure, je le disais à l'instant, comment ça se passe dans les DOM et en Andorre, mais lorsqu'on arrive dans un lycée comme cela, quelles sont les relations qu'on a, et surtout quand on est un jeune professeur, quelles sont les relations qu'on a avec ses élèves et ensuite avec les parents d'élèves? Est-ce qu'ils sont très présents, ces parents?
Alors, on a tout. On a le parent d'élève ravi qu'on soit jeune, parce que ça donne un certain dynamisme, et qui presque nous accompagnerait de façon bienveillante et sans interaction avec, enfin sans même mise sur ce que nous sommes en train de faire. Et puis, bon, il y a toujours le... Mais j'ai toujours à mon âge, et je suis plus toute jeune.
Alors, le parent... encore une jeune professeure. Vous pouvez encore vous parfumer du titre de jeune.
Oui, mais alors justement, la jeunesse passe dans les yeux des élèves et c'est très visible. Mais je le dirai tout à l'heure, il y a certains parents, bon, mais ça c'est même à mon âge, qui viennent nous expliquer comment on aurait dû faire et comment on aurait pu mieux faire parce que leurs parents et leur enfant est comme ceci ou comme cela et qu'on ne l'a pas perçu. Et du coup, ça dépend vraiment finalement du parent. Ça ne dépend plus de nous là à la rigueur.
Oui, Chloé.
Y a un gap entre le fait d'enseigner dans le Nord et dans le Sud, comme vous le disiez, par rapport aux parents ou même par rapport à vous dans les établissements, aux élèves aussi?
Non, en fait, rien n'est plus semblable à un établissement scolaire qu'à notre établissement scolaire. En réalité, on accueille des jeunes qui, sans en avoir véritablement conscience, sont en train de construire la suite, sans pour autant d'ailleurs, s'ils ne réussissent pas ou s'ils réussissent, construire une véritable réussite ou pas, parce que tout est toujours possible et ils ont tendance à l'oublier. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses sont quand même possibles en termes de réorientation. Et on a toujours des parents inquiets pour leurs enfants, parce que c'est quand même majoritairement ce que je vois. Qu'ils me le disent en étant très sympathique, très, très joyeux, très souriant, ou qu'ils me le disent en m'expliquant que j'aurais pu mieux faire, très souvent, ce que j'ai en face, c'est un parent, c'est-à-dire l'image de moi en tant que parent, qui s'inquiète pour son enfant. Et ça, c'est vraiment, ça m'a, dès le début de ma carrière, ça, j'ai senti ça. Ce que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un d'inquiet, ou pas, parce que parfois certains élèves réussissent tellement, mais même quand l'enfant est en réussite, j'ai toujours en face de moi quelqu'un qui voudrait que nous fassions de notre mieux, et qui voudrait quand même d'une certaine façon faire de son mieux. La vraie grosse mauvaise foi, vous voyez, j'ai pas énormément d'exemples de vraie grosse mauvaise foi de parents.
Est-ce que votre métier est aussi politisé qu'on le lit dans les journaux? Est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que vous avez le couteau entre les dents? Est-ce que vous êtes de toutes les grèves, les enseignants? Est-ce que c'est une image d'Épinal totalement fausse?
Alors, politisé, oui. J'ai vu, et ça m'a beaucoup amusé, certains tracts partir à la poubelle pendant la campagne électorale. Donc, c'était amusant parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre temps. Les uns jetaient les tracts des autres. Mais pas politisé au sens où on l'entend. On a vraiment toutes les couleurs politiques. Et dans les jeunes, même, j'ai été étonnée des couleurs politiques que l'on voit. Donc, on a vraiment tout le panel politique, là, tout le continuum. Et pour ce qui est des grèves, j'en ai fait quand j'étais jeune, la grosse grève de 2002. Et même j'ai fait la grève tout en étant en classe parce qu'il y avait le bac et que j'étais prof de lycée, donc le truc incompréhensible. Mais après, bon, c'est vrai que j'ai un peu... Pour ce qui est des grèves, je me suis un peu calmée. Puisque cette grève-là, on l'a faite finalement. On l'a faite, on a quand même fait passer le bac pour ne pas qu'on dise qu'on prenait les enfants en otage, ce qui est peut-être d'ailleurs une erreur de notre part, j'en sais rien. On l'a faite et on n'a rien obtenu. Elle était longue.
Caroline Chemarin, je vous propose de faire une pause musicale. Ce sera la première et c'est celle que vous avez choisie. Alors, vous pouvez nous rappeler le titre. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi.
En fait, c'est une chanson de Soft Samouillé qui signifie ce que nous sommes et qui a servi de générique au très très beau film de Zane Palfi qui s'appelle Parcours de dissident. Et qui est vraiment une leçon d'histoire et d'humanité extrêmement intéressante qui m'a pas mal aidée aux Antilles, en fait.
Alors, on l'écoute.
Est-ce même où t'en es, va-t'en l'envoyer ou décide. Décide parti pour diviner, vaillant sans lui. C'est d'avoir sans abonné ou à liberté. Pour tout côté. Est-ce même où t'en es, va-t'en l'envoyer ou décide. Décide de fiel en mer pour vivre vaillant sans lui. Rendez-vous vent assis de main pour porter liberté. Pour d'autre côté. Yo a beau dire, a beau fait pour qu'il y ait passé. Déboulé convaillant l'histoire française. Disparaître derrière la mer en silence. À 20 ans où t'es vaillant dissidence. C'est une histoire en kakembe qu'on chapelet pour moi pas jamais oublié. Salié. Passer par anglais, pas te cassant trop fort. Comme un couille, monte, descend l'eau. Ou aller virer. Et ça l'argent moins moins qui j'a savais ça qui vient. C'est que pelle, c'est famille et l'amour à moi. Du bout de piquant, vaillant, cascade. On va louper Martinique, pas perdre ton temps pour moi de décider. Yo a beau dire, a beau faire pour qui il est passé. Pousser grand-papa alors à papi tirer.
Voilà, nous retrouvons notre invitée Caroline Chemarel. Le morceau est assez long, donc nous l'avons un peu coupé. Et pour revenir à votre expérience, et je vous propose maintenant d'aborder votre métier, mais lorsque vous l'avez exercé très loin de chez nous, dans un département certes français, mais où j'imagine que la culture est bien différente de la nôtre, c'est la Martinique. Vous avez fait le choix d'aller en Martinique. J'imagine que c'est un choix raisonné de votre part. C'était un désir d'évasion, un désir d'avoir une rémunération très légèrement améliorée ou autre chose.
Je me suis dit que, alors on s'est dit, parce qu'on était deux là à prendre la décision, qu'en sortant de l'IUFM, finalement, nos chances d'aller à Perpignan étaient minimes, et puis notre désir d'y aller était quand même à l'âge qu'on avait, je crois que j'avais pas 23 ans, rentrer à Perpignan, acheter la maison, prendre le chien et prendre la concession au cimetière.
Voilà, j'allais vous le dire.
Et du coup, bon, ben, j'avais pas pu être égyptologue, donc hop, j'ai choisi la Martinique presque sans savoir, alors je suis pas douée en géographie, hein, presque à l'époque sans me demander où c'était. Ça faisait partie des académies.
Oh, quand même, on s'est à peu près situé à la Martinique.
Oui, oui, mais bon, vraiment, sans avoir cherché ce que j'allais y trouver, sans préparation préalable. Les seules préparations préalables que j'avais eues, finalement, c'était avoir lu Césaire, plus ou moins, pour le bac en 95, et puis avoir vu traîner un chamoiseau chez mes parents, parce qu'il a eu le Goncourt quand j'étais jeune, et mon lien avec la Martinique, ce n'était rien de plus que ça, au départ.
Alors quand vous dites nos liens, vous évoquez bien sûr les vôtres, mais aussi celui de votre mari qui est également enseignant, et vous vous retrouvez tous les deux en Martinique. Alors comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis par les Martiniquais, par les collègues aussi? Est-ce qu'il y avait plus de collègues de métropole ou plus de Martiniquais? Comment ça se passait?
Alors, quand on est arrivé, comme on était dans un collège du centre-sud, c'est bizarre comme mot, mais c'est la Martinique, c'est très particulier. En fonction de la zone que l'on habite, les proportions ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que centre et sud de la Martinique, c'est souvent très demandé par les collègues métropolitains. En tout cas, en proportion, ils sont plus nombreux parce que finalement, c'est là que on est près de Fort-de-France, on est près des très belles plages de sable doré. Et la première année d'enseignement en Martinique, c'était à Ducos, c'est-à-dire vraiment le centre. Et l'ambiance était comme peut être la Martinique, en fait, extrêmement contrastée. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des collègues qui m'ont amené, j'étais enceinte, à l'hôpital, qui ont attendu que je termine de voir mon docteur, qui m'ont ramené à la maison, je n'avais pas le permis. Des collègues qui m'ont amené des livres pour que je rentre dans la culture, qui ont pris le temps de me faire visiter l'île. Donc, en fait, énormément d'ouverture et de bras ouverts, d'un côté, et sans véritable explication, d'un autre côté, des petites remarques vipérines du genre « Oh ben, c'est un chasseur de primes ». Donc, ça ne tient pas finalement, ça ne tient pas au territoire, mais aux personnes qu'on a rencontrées. Certaines nous ont véritablement accueillis, comme des collègues, comme des gens à qui il fallait tout apprendre. Et puis, certains ont vu en nous autre chose, c'est-à-dire ce que par notre visage, on porte de l'histoire commune. On est des métropolitains blancs, et finalement, mine de rien, dans l'histoire, le métropolitain blanc, c'est lié à l'esclavage. Et puis, on est aussi le métropolitain blanc qui arrive avec un concours validé, et sur l'île, j'ai trouvé, mais ça n'engage que moi, que l'aide pour passer les concours n'est pas optimale. C'est vrai qu'on a peu de... la première année, on avait beaucoup de collègues qui n'avaient pas le concours. Et c'est vrai que ce sont des choses qui les délégitiment aux yeux des autres. En tout cas, eux se sentent délégitimés ou non légitimes. Et finalement, ça crée des ambiances qui sont néfastes. Quand on est, finalement, notre devise est bien faite. Hein. Quand on est tous égaux devant quelque chose, non, c'est tellement plus simple de se sentir frère. Tandis que quand on ne l'est pas, il y a des problèmes pas de valeur, mais il y a des problèmes de valeur intrinsèque de la personne qui sont masqués par moi j'ai le papier, toi tu l'as pas. Et du coup, ça a quand même créé des tensions. Oui, certains ont perçu qu'on prenait des places qui auraient dû être attribuées à des personnes natives. Sauf que finalement, ce sont des commissaires, ce sont des mutations régulières qu'on a eues. Et du coup, la place n'est pas prise à quelqu'un. La place a été mise au mouvement, on l'a eue. Et peut-être s'il y a des efforts à faire, c'est sur l'aide pour les gens de là-bas à passer un CAPES sans avoir c'est loin. Quand on ouvre le CAPES à 8h du matin, ça veut dire qu'on a 5 heures de décalage. Comment on aide les personnes à passer le concours de façon sereine? J'ai passé l'agrégation que je n'ai pas eue là-bas. Il faut être à 3h du matin sur le pont. On n'a pas le cerveau ouvert de la même façon à 3h du matin, je trouve.
Pour revenir sur l'accueil que vous ont réservé vos collègues, ça a dû être un peu un choc des cultures pour vous, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas vraiment ancré, enfin en France métropolitaine, j'entends, c'est pas ancré d'aller à la plage avec ses collègues dès qu'on arrive. Ça a dû vous surprendre, non ?
Non, parce qu'il y a beaucoup, même en France métropolitaine, de comités du personnel dans les établissements qui prévoient dès la rentrée des restos, des gros pique-niques, des sorties à la montagne. Ici, en Andorre, ça s'est fait aussi. Il y avait la speedway de rentrée, la soirée de Noël et des choses de cohésion du groupe, comme dans les entreprises, on en a. Donc ce n'était pas le plus gênant. Mais puisque vous parlez de la plage, la première fois que je me suis retrouvée face à mes élèves de 3e en maillot sur la plage, ça c'est nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi. Maman, t'as vu, papa, c'est la prof de latin. Et là, on essaie de cacher le nombril, le ventre. Et c'est des situations drôles. Mais pour moi, elles n'étaient pas naturelles, mais pour les élèves, oui.
Quels ont été vos rapports, alors même question que celle que l'on vous a posée tout à l'heure concernant la France, quels ont été vos rapports avec, d'une part, les élèves et d'autre part, leurs parents?
Alors, moi, personnellement, les élèves et leurs parents, un peu tout, mais jamais trop difficile. Bon, là je mens un peu, mais je développerai peut-être plus tard. Un peu tout. Par exemple, au début, ils ont vu arriver la métro qui ne comprend rien au créole. Et alors là, ils se sont régalés. Alors, ils se sont régalés avec le créole. Parce que, justement, ils ont dit des mots qui avaient des sens. Alors, une fois cochon, une deuxième fois cochon, une troisième fois cochon. Et comme je les regardais avec mon air candide, ils étaient morts de rire. Et quand je suis rentrée dans leur jeu en leur demandant ce que ça signifiait et qu'ils ont fait exprès de traduire autrement, alors là, c'était encore plus le gros rire dans la classe. Et ils ont beaucoup joué, en fait, avec la barrière linguistique. Et ça, c'est la première chose qui m'a marquée, la barrière linguistique. Deuxième chose, ils ont été surpris parce que j'ai été nommée après les grandes grèves du 6 février, c'est-à-dire au moment où tout le monde quittait Lille. Et donc, ils ont été surpris qu'on ait un prof comme ça, tout neuf, en 2009, donc la deuxième fois où j'y ai enseigné, qui demande ça, qui demande la Martinique après ce qu'on avait pu voir à la télévision. Et c'est tellement, 10 ans en Martinique, il y a tellement de choses à raconter que c'est difficile de choisir. Mais en règle générale, les enfants, ça fait franchement... En règle générale, ça s'est bien passé. Beaucoup encore sont mes amis, on s'écrit, ils suivent ce que je fais. Les parents, pareil. Je trouve que vraiment, ça a été... Les parents étaient contents Enfin, en général, de toute façon, en Martinique, les parents, dans les deux postes que j'ai occupés, étaient très respectueux de la fonction de professeur. C'est la première fois de ma vie qu'on m'a dit « Bonjour, madame le professeur ». Et donc, il y avait une barrière comme ça qui faisait que c'est très commode, finalement, d'avoir un statut comme ça. « Bonjour, madame le professeur. Bonjour, madame. » Voilà. Donc, c'est davantage dans la rue. Avec des gens dont on ne fait, enfin, avec des gens qui ne nous reconnaissent pas comme faisant partie de leur cercle, et c'est davantage avec certains collègues que ça a été plus compliqué.
Ça veut dire qu'il y a du racisme. Ça veut dire qu'il y a du racisme.
Ça veut dire qu'il y a une. Certains, oui, hein, oui, comme ici dans nos salles des profs, il peut y en avoir, mine de rien, comme partout, il peut y en avoir, oui, il y a du racisme, mais en pourcentage, ce n'était rien, mais c'est la chose qui vous détruit quand même. On revient complètement déboussolé, parce que finalement, on se rend compte que, on a été bien accueillis par la majorité, une partie a été très compliquée à gérer, et mine de rien, c'est cette partie qui vous ronge. Et on revient transformer parce que quand on revient, finalement, on voit le noir, on voit la personne qui vient d'un autre pays et dont l'origine est visible sur le visage, on le voit différemment. Parce qu'on se dit, dans tout ce qu'il rencontre, il y a aussi ces petites fourmis qui grattent sa personnalité, qui l'irritent. Et c'est très dur, parce que même si on fait partie des autres, ceux qui ne refusent pas, on sait qu'en lui, il y a ça aussi. On le sent. Je suis bien claire, mais...
À propos de l'intégration, justement, vous parliez du créole tout à l'heure. Alors, en 10 ans, je suppose que vous avez eu le temps de parler un petit peu créole. Comment ça s'est passé dans l'apprentissage de la langue, là-bas?
Alors, tous les gros mots, c'est en classe. Déjà, en classe ou dans la cour. Et puis des collègues justement qui m'ont assis et qui m'ont dit, donc s'ils disent ça, c'est mauvais signe, s'ils disent ça. Donc dans l'accueil, il y a eu ça. Il y a eu la formation informelle au créole et le collègue qui a, entre guillemets, pitié et qui me donne les clés. Et il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu beaucoup. Et il y a les parents aussi qui, de temps en temps, essayaient de m'apprendre des mots comme ici, comme en Andorre. Les gens aiment transmettre leur langue en fait. Et du coup, ça s'est fait vraiment ça a été une espèce de socialisation créole par les gens et les enfants en classe. C'est vrai que ça a été magique, le moment où je leur ai dit que moi, ça m'intéressait d'apprendre, mais les cours étaient... Je pouvais pas apprendre en cours, donc je leur ai dit, écoutez, dès que vous pouvez, apprenez-moi des choses. Et comme le cours est devenu un échange de transmission, ce sont des cours qui ont été extraordinaires. Finalement, la magie s'est arrêtée quand ils ont eu l'impression qu'on était arrivé à un cap où ils n'avaient... Évidemment qu'ils ont toujours des choses à m'apprendre en créole, mais où ils sentaient que finalement, ils m'avaient déjà transmis tellement que je ne m'étonnais plus de tout. Et du coup, tant que je m'étonnais de tout, il y avait cet échange sympathique et puis valorisant pour tout le monde. Et Quand j'ai pu demander à comment on cuisinait la banane comme ci ou comment ça s'appelait la banane comme ça, et que je suis devenue, que je me suis ancrée dans le territoire. Je ne sais pas si certains y ont senti un danger, mais l'ancrage dans le territoire, j'ai senti une cassure avec certaines personnes. Alors le problème vient de moi, hein, je ne dis pas que... Mais j'ai senti qu'il y avait un changement de, d'attitude. Peut-être moi j'ai changé d'attitude quand j'ai acheté ma maison, je me suis sentie plus du coin et cet ancrage s'est vu. Ben, par miroir, j'ai senti aussi un changement d'attitude chez d'autres. J'étais plus le gentil gars de passage qui vient enseigner puis qui s'en va. Là, cette fois-ci, là, je manquerai. Et du coup, il y a des personnes chez qui ça a provoqué un changement.
Et alors, par rapport à ces élèves, est-ce que c'est cette notion d'échange qui diffère de l'enseignement en France métropolitaine pour vous ?
Non.
Non ?
Non. Ce qui diffère pour moi, c'est vraiment, et encore, parce qu'en France métropolitaine, il y a tellement de lieux où les enfants portent une autre culture. Finalement, on a énormément d'enfants qui arrivent au collège avec une autre culture. J'ai enseigné dans les classes de Lézignan, qui étaient des classes spécifiques, réservées, entre guillemets, hein, avec énormément, enfin, uniquement des enfants de la communauté gitane. Ces enfants-là arrivent avec leur culture, qui est pour moi aussi extraordinairement nouvelle que la culture antillaise. Et du coup, dans beaucoup de collèges où j'ai été, mais c'est peut-être le fait des mutations, hein, j'ai connu cette étrangeté. Dans le Nord, par exemple, un élève qui vous dit « Madame, j'ai oublié ma vache ». Sur le moment, on est surpris. Et la vache, en fait, c'est la métonymie pour le cartable. Donc j'ai dû quand même aussi m'adapter linguistiquement, parce que la vache, pour moi, c'est pas le cartable. Hein.
Caroline Chemaret, vous avez enseigné le latin, le grec, vous l'avez enseigné là-bas, en Martinique ?
Le latin.
Alors comment ils reçoivent, comment les élèves martiniquais reçoivent ce latin ? Pour eux, c'est un autre monde, c'est très très loin, ça ne correspond absolument pas à leur culture. Ils adhèrent à ce latin, ils en perçoivent la nécessité de cet apprentissage.
Oui, c'est là que j'ai eu les classes les plus fournies. C'est-à-dire que j'étais prof de latin quasiment tout mon service. J'ai un prof de 18 heures, il m'est arrivé d'avoir jusqu'à 16 heures de latin. Énormément d'enfants adhèrent au latin, on a dû créer des groupes. Donc, quand je suis arrivée, c'était la première fois en 2002, il y avait peu d'élèves de latin parce qu'il n'y avait pas de prof. Mais très rapidement, on est arrivé à énormément de groupes. Un quart des élèves de mon collège de 400 élèves faisaient du latin. Et pourtant, il n'y a pas de latin en sixième. Donc c'est énorme comme
proportion. C'est assez extraordinaire. Comment vous expliquez cet engouement ?
Alors, dans le collège auquel je fais référence, où le latin a vraiment pris une place extrêmement importante, c'était un collège au milieu, tout près d'une cité. Et du coup, le latin était perçu comme une progression sociale et comme l'accès à quelque chose qui jusque-là n'avait pas été possible. Donc c'était vraiment, j'ai perçu que pour beaucoup d'enfants, c'était une conquête. Après, très rapidement, on a commencé à travailler en co-animation avec les profs de créole, qui étaient super ouvertes sur le latin et qui m'a fait découvrir la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on commence à établir des liens et que les enfants perçoivent comme il est intéressant de connaître cette langue parce qu'elle a aussi impacté la Martinique d'une façon extraordinaire. De toute façon, Aimé Césaire, dont tout le monde parle, qui est vraiment la référence à la Martinique, Aimé Césaire qui est agrégé de lettres classiques. Et du coup, finalement, c'était presque, alors pour moi, ça a été presque un père fondateur, hein, de ce qui s'est passé à la Martinique, parce que si j'écris, si j'ai réussi à être publié, c'est grâce à Aimé Césaire. Hein. Alors, il m'a pas aidé, il avait déjà disparu, mais c'est les leçons de son approche poétique qui m'ont permis de voir les choses autrement et qui m'ont donné de l'assurance et qui ont fait qu'on a fini par me dire oui. Donc le latin, c'est tout ça. Et quand on a commencé à connecter les pirates de la zone caraïbe aux pirates de la zone méditerranéenne pendant l'époque romaine, quand on a commencé à montrer aux enfants que le seul bateau ancré à Saint-Pierre en 1902, qui est parti avant la catastrophe, était un bateau italien, parce que le commandant de ce bateau, quand il a vu les signes avant-coureurs de l'éruption, a pris ses affaires, son bateau, ses passagers, son équipage, et même je crois qu'il a, je ne sais même pas s'il a pris le temps de charger son rhum. Il est parti sans l'accord des autorités portuaires qui ne voulaient pas qu'il parte. Ce bateau-là a été sauvé. Il y a deux bateaux qui ont été sauvés, c'est l'Orsolina, le bateau italien. C'était un Napolitain qui était capitaine et il a dit non, non, moi, ça me fait trop. Ça, je connais l'histoire du Vésuve, j'ai pas envie de... Hop, il est parti. Et le deuxième bateau, c'est le Belém, le grand bateau français qui vogue encore et à qui un autre bateau avait pris la place. Et du coup, quand on raconte ça aux enfants, c'est finalement, c'est leur terre, c'est une histoire qu'on partage. On établit tellement de connexions que le latin devient complètement vivant autour d'eux. Et puis bon, dans les fruits, dans tout, finalement.
Caroline Chemarin, vous avez écrit, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous, et je vous en remercie, vous m'avez permis de lire le manuscrit de ce livre qui sera, on l'imagine, édité prochainement. On va y travailler. Et peut-être qu'à cette occasion, à l'occasion de sa sortie, je vous réinviterai pour reparler de la Martinique, parce que ce que vous avez écrit là me paraît tout à fait fondamental. Alors faisons, je vous propose de faire un saut et dans l'espace et dans le temps, et de partir de la Martinique et de nous retrouver en Andorre, le pays où vous avez choisi d'enseigner, où vous êtes aujourd'hui, de là, vous nous parlez. Pourquoi le choix de l'Andorre et alors comment c'est passé cette arrivée en Andorre? Quel parallèle on peut faire avec la Martinique? Qu'est-ce qu'il y en a d'ailleurs à faire?
Oh, il y en a plein. En 2009, quand j'ai obtenu la Martinique pour la deuxième fois, j'avais aussi posé une demande pour Andorre. Donc de toute façon, les deux destinations sont liées depuis le début. Et donc en 2009, je ne l'ai pas eu, puisqu'il y a un système de points qui bénéficie généralement aux personnes natives. Comme en Martinique, hein, les natifs ont 1000 points. Donc je ne l'ai pas eu, et comme j'ai eu la Martinique, ben, j'étais ravie de partir en Martinique. Et en partant de Martinique, ma demande a été Andorre. Donc pourquoi Andorre? Ben, c'est la Catalogne, c'est à deux pas de Perpignan.
On fait à deux pas, oui, pas tout à fait quand même.
Bah, disons que par rapport aux 9 heures d'avion de Martinique, finalement, c'est vrai que je descends, mais c'est presque une promenade. Du coup, c'est un endroit qui me plaît, mais qui me plaît pour des raisons qui sont complètement farfelues, puisque je ne skie pas. Je fais des randonnées quand vraiment j'y suis obligée. Et les boutiques, bon, c'est sympa, mais ça m'amuse 2 minutes.
Alors, oui, surtout qu'elles sont quand même assez répétitives et tristes.
Bah, moi j'ai un cadre de vie joyeux, toujours ouvert, toujours allumé, il y a toujours du mouvement. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas passer toute sa vie dans une boutique, même si j'y vais.
Alors, vos élèves là-bas, vous leur enseignez également le latin, le grec, les lettres classiques?
Alors, le grec, non, je l'ai laissé au meilleur que moi. Et je suis contente. Le latin, oui, j'ai récupéré pas mal du latin au niveau du collège et du français, beaucoup de français, puisque les profs de lettres classiques sont à la fois profs de latin et de grec, et que, contrairement à la Martinique, je ne suis pas le seul professeur de latin, nous sommes 4. Donc, il y a un partage équitable des heures de latin et des heures de grec.
Est-ce que vous êtes aussi satisfaite de vos étudiants ou de vos élèves catalans que vous l'étiez sur le plan du latin, bien sûr, que vous l'étiez de vos élèves martiniquais?
Alors souvent ils ne choisissent pas le latin pour les mêmes raisons, mais en classe, de toute façon, une classe de latin, c'est une classe d'enfants qui a choisi de venir, donc choisi de travailler plus, même si souvent au départ c'est la main du parent qui a coché le latin. Hein. Et du coup, ce sont des heures de cours qui sont extrêmement faciles et agréables. Puisque, bon, ils sont quand même... On a demandé aux proviseurs de nous farcir les classes à 25, si pour, enfin, entre 20 et 25, parce que beaucoup de collèges ont des classes de latin à 15. On essaie au maximum de remplir, entre guillemets, la classe. Alors, c'est plus difficile à gérer, mais du coup, on touche quand même beaucoup plus d'élèves et notre discipline vit. Et les élèves, donc, est-ce que j'en suis contente? Oui, c'est un autre rapport à la langue, mais ça se passe franchement très bien. Ils ont une appétence culturelle qui est extrêmement intéressante, parce que je la crois liée à la terre multiculturelle dans laquelle nous nous trouvons. Et comme c'est une terre multiculturelle du monde latin, puisqu'on a énormément d'enfants espagnols, catalans, portugais. C'est une autre approche de la langue.
Et alors, est-ce que ce n'était pas plus accessible pour ces élèves catalans, donc? Parce que c'est vrai que le latin, ça se rapproche peut-être un peu plus du catalan que du martiniquais. Est-ce que vous l'avez ressenti?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en créole, ils se sont rendus compte qu'énormément de racines de mots créoles venant du français et aussi de l'anglais, parce que ça dépend des proportions. Dans certains créoles intègrent plus l'espagnol ou l'anglais. Mais énormément de mots créoles, finalement, sont passés par le latin à un moment donné, sauf quand ils sont beaucoup impactés par l'anglais. Et du coup, ils étaient étonnés de voir combien le latin était présent dans le créole, d'une certaine façon. Donc ici, en Catalogne, ça paraît plus évident, mais finalement, on avait déjà cette approche-là aux Antilles. C'est pour ça que je travaillais à ce point avec la prof de créole. En revanche, en Catalogne, ce qui est intéressant, en Andorre et du coup dans toute la zone catalanophone, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir connecter les langues. On a un gros pourcentage d'élèves portugais, évidemment énormément de catalanophones et d'hispanophones. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je ne joue plus sur deux langues, enfin trois langues, français, créole, latin. Là, on commence à jouer sur portugais, espagnol, catalan, français, latin. On commence à jouer sur cinq langues et cinq approches. Et ça commence à devenir très sympathique du point de vue de l'interconnexion.
Très sympathique, mais compliqué. Vos élèves, je vais employer un très vilain mot, pardon. Est-ce que c'est une élite, vos élèves, qui ont fait ces choix? Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'autres voies.
En fait, non. En fait, en général, les élèves qui choisissent latin, on a souvent l'idée des élèves qui choisissent latin, on se dit que ce sont, entre guillemets, les bons élèves. Mais finalement, on est plusieurs dans le collège à défendre l'idée que il faut ouvrir dès la sixième, il faut accepter dès la cinquième, donc on va voir les enfants de sixième pour qu'ils viennent en cinquième, qu'il faut ouvrir à un panel le plus large possible pour que tout le monde puisse accéder au latin, quitte à ce qu'après, si l'enfant nous dit qu'il y a trop de mémorisation, qu'il faut se recentrer sur d'autres disciplines, on le comprenne et on l'accompagne. Mais au moins avoir goûté à ça, parce que très souvent, il y a quand même des révélations. Et du coup, on n'a pas forcément, on ne choisit pas les élèves sur leurs notes. On a beaucoup d'élèves, par exemple, on a des élèves qui ont des AESH, qui sont très aidés ils en ont besoin, qui ont des AESH et qui ont des accompagnements particuliers, même du point de vue de la note. Quand on nous a dit, mais le latin, ça va lui faire un surcroît de travail. Oui, mais il veut faire. On l'a pris et c'est à nous à nous adapter finalement aussi. Parce qu'on sait que l'enfant en a besoin.
Caroline Chouin, AESH, traduction pour les Alors, ignorants je connais que pas. Nous sommes.
J'ai du mal à le traduire, mais c'est en fait ça se traduit par une petite dame. Chez nous, ce sont des dames en général, mais ça peut être un homme. Une petite dame qui est à côté de l'enfant et qui l'aide à s'organiser et qui l'aide à prendre ses cours. Les enfants auxquels je fais référence et qui font latin, ça se traduit par une aide humaine à l'organisation et à l'apprentissage des leçons. Et du coup, tout est adapté parce que la loi nous le permet, on met en place un accompagnement particulier. Mais pourquoi cet enfant-là serait-il exclu du latin s'il a envie d'en faire? À la rigueur même, on peut très bien mettre en place quelque chose qui fait qu'on ne le note pas. Bon, là, on le note en réalité avec des choses spéciales. Du coup, on ne garde pas le latin que pour, entre guillemets, l'élève qui serait super bon, super sage. Pas du tout. On ouvre à tout le monde. Parce que si on ferme, ça veut dire qu'on nous-mêmes, on ne défend pas nos propres valeurs.
Alors, on va rappeler, Caroline Chemin, que vous travaillez, je n'ai pas cité le nom de votre établissement, c'est le lycée Comte de Foix, qui est en Andorre et qui dépend de l'éducation nationale française, bien que dans un pays étranger.
Oui, ce qui en fait sa spécificité, puisque justement, quand on parle très souvent, les gens, quand ils imaginent un lycée français à l'étranger, ils imaginent le lycée français payant extrêmement cher et puis qui du coup reçoit une élite sociale. En fait, nous avons un lycée qui est gratuit qui reçoit eh bien, les élèves qui veulent suivre un enseignement français. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il me convient si bien, puisqu'il correspond aux valeurs de départ de mon choix de devenir enseignante.
Ouais, très rapidement, Caroline, avant que nous passions à votre autre activité, quelques mots, ouais. Deux questions. Est-ce que c'est un beau métier? Si c'est à refaire, est-ce que vous le referiez?
Alors, je dis tout le temps que non, parce que j'aime me râler. Je dis tout le temps que non, parce que des milliers de choses ont changé. Et que, finalement, on nous demande... Enfin, je trouve qu'on n'a pas... On a besoin de plus de temps avec les enfants pour construire des choses solides, durables et efficaces. Donc je râle toute la journée en disant que si c'était à refaire, je ne le referais pas, et en disant à mes enfants qu'il ne faut surtout pas qu'ils fassent ce métier. Mais en réalité, je ris parce que c'est vrai, si c'était à refaire, je le referais.
Alors ce sera pour cette partie de votre activité, le mot de conclusion. Alors assez rapidement, parce que le temps défile très vite... Vous êtes écrivain. Comment vous êtes venu à écrire des livres et qu'est-ce que vous écrivez? Quel est votre domaine d'écriture?
Comment je suis venue? De toute petite, on me donnait un stylo, une feuille, et on me posait dans un coin et finalement on avait la paix pendant une heure. Du coup, de toute petite, on m'encourageait aussi parce que finalement dans ma famille. On voyait les écrivains de façon un petit peu romantique, comme des grandes personnes. Et du coup, ça a construit un petit surmoi, comme ça, complètement daté, de l'écrivain qui n'existe plus hein, dans ces termes. Et donc, bon, c'est vrai que de toute petite, j'ai souhaité devenir écrivain. Enfin, en plus d'égyptologue et en plus aussi de président de la République, parce que tant qu'à faire. Mais ça faisait partie de mes rêves d'enfant. Donc c'est vrai que j'en ai eu beaucoup de rêves d'enfants, mais ils sont tous d'un autre temps. Égyptologue, grand président et écrivain, ce sont des rêves d'un autre temps.
Chloé, une question de Chloé qui boude d'impatience de vous interroger.
Alors dans votre biographie que vous nous avez transmise, il y a un élément qui m'a interpellée par rapport à votre carrière d'écrivain d'ailleurs, qui a beaucoup compté. Je cite une boutade d'un prof de fac qui vous a stoppé net dans votre envie d'écrire, alors que, comme vous venez de nous le dire, vous le faisiez depuis toujours. Comment une remarque, une simple remarque a priori d'un professeur peut amener à renier toute votre créativité et à vous brimer pendant des années comme ça?
Alors, option 1, j'ai un très mauvais caractère et un ego surdimensionné. C'est possible. Option 2, j'avais beaucoup d'admiration pour le travail de ce professeur. J'aimais beaucoup sa façon d'analyser les textes. Et je n'avais pas compris ce que je faisais à la fac, sans doute. La fac, c'est le lieu de l'analyse, de l'étude, de la construction et finalement de la lecture et de l'apprentissage. Donc on est quand même là davantage pour construire une connaissance sur les textes et puis apprendre à les analyser, me semble-t-il. Et ça, j'avais pas vraiment compris ce que je faisais là, sans doute à ce moment-là, et j'ai proposé à mon professeur de lire le texte. Et bon, à ce moment-là, il m'a dit « Ah, on a tous été ridicules à un moment donné, mais sans lire le texte. » Mais peut-être que s'il l'avait lu, il aurait dit la même chose. Donc j'aime autant qu'il l'ait dit sans le lire. Et prenant sa parole comme parole d'évangile, puisqu'il était si bon en classe, je me suis dit qu'il avait sans doute raison. C'est-à-dire que le texte que je lui proposais, c'était un bon gros texte en alexandrin à la façon de Victor Hugo, c'est-à-dire ce que plus personne ne lit. Et c'est vrai que sa remarque m'a stoppée net, mais même si elle a mis du temps à mûrir, sa remarque m'a fait comprendre la démarche de Denis Césaire, c'est vrai, autrement. C'est-à-dire que écrire, c'est créer. À un moment donné, si je ne fais que reproduire ce qu'ont fait les grands anciens, je ne crée pas. Et créer, quand on a l'impression que tout a été écrit d'une certaine façon, c'est quand même très compliqué. J'ai écrit des contes, c'est des facéties. J'ai écrit des petits récits pour expliquer le territoire. Quand on s'assied et qu'on réfléchit, le conte avec un héros qui a une quête, des adjuvants, des opposants, déjà fait. Le conte qui, justement, a un héros qui ne cherche pas quelque chose, qui n'a pas une quête, mais dont le travail est de détruire quelque chose pour sauver le monde, Tolkien, déjà fait, ce farceur, il a tout inversé. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte que beaucoup de choses ont été faites, c'est compliqué de se dire, bon, mais
ah bah, de toute façon, là, si on part de ce principe, on ne fait plus rien, parce que nos anciens ont à peu près exploré toutes les voies. Alors, on peut les renouveler, on peut les moderniser, on peut peut-être les faire avec un peu plus, en y mettant un peu plus de nous-mêmes, ce qui change complètement le propos. Donnez-nous quelques titres de vos parutions, les dernières.
Alors, les toutes dernières, les facéties et paysages comptés en Pyrénées-Orientales, Louise et la poupée de Madras, et une collection pour les tout jeunes bilingues qui s'appelle Les petits pouillicontes. Et là, il y en a 5.
Merci. Oui, non, on va pas toutes les évoquer parce que le temps passe très vite et je voudrais aborder la dernière partie de cette émission, peut-être avec un peu plus rapidement, avec réponse un peu plus courte, pardon, de cette exigence.
Oui,
mais c'est la radio. Avec tout ça, le lycée, l'enseignement, les livres à écrire, vous avez encore quelques activités sociales?
Je ne fais pas grand-chose en fait. Hein. J'ai cité Tolkien tout à l'heure. Moi, je suis un vrai hobbit. Hein. Donc, un stylo, un piano et rien d'autre. Et je suis très bien. Donc, j'aime parler aux gens. Il n'y a pas de souci. J'aime rencontrer des gens. Mais aller chercher et programmer une sortie pour rencontrer des gens, faire de la rando à plusieurs... Non,
c'est pas. J'ai compris en préparant cette émission que le sport n'était pas véritablement votre tasse de thé, si je puis dire.
Non, il faudrait, hein, mais non. Et puis les rapports sociaux en classe, j'ai 170 élèves, donc deux fois plus de parents.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai
qu'on ne peut pas vous demander en plus sociaux. D'aller, ça se comprend. Alors pour qu'on vous connaisse un peu mieux, Karl Chemarin, quelques questions, pas indiscrètes, mais presque, une œuvre d'art qui vous a marqué.
Judith et Holoferne du Caravage.
Oui, ah ben c'est vous savez que nous l'avons eu à Toulouse.
Pardon ? Ah oui, vous l'avez eu à Toulouse.
Nous avons eu ce tableau que l'on a découvert dans un grenier toulousain. Ce qui m'a permis de passer beaucoup de temps devant un de ces Caravages. Il en a peint plusieurs, mais notamment celui-là. Autre chose, un moment décisif dans votre vie, qu'est-ce qui vous a fait peut-être à un certain moment basculer dans un choix ou dans un autre ?
Il y a eu tellement de choix que ce sont des questions impossibles. Donc du coup, sur celle-là, on va pouvoir gagner du temps.
Ah oui, c'est vous. Bon, allez, vous choisissez ça. Il y a certainement quelque chose qui, pour vous, a été déterminant, plus que le reste.
Pour l'écriture, ça va avoir cessé d'écrire, c'est ce professeur-là. Pour m'y être remis, c'est la lecture assidue, finalement, de Césaire et de tous ceux qui ont écrit sur les Antilles. C'est beaucoup des moments littéraires. Hein. Et après, tous les moments qu'on peut avoir dans une vie de maman, de femme, les premières découvertes. Dernièrement, mon fils qui me dit qu'il vient de terminer un roman en écriture et que ça me transporte de joie parce que c'est quand même quelque chose qu'on partage.
Donc ça se transmet dans les gènes. Quelle est la personne qui, je vais pas vous dire, si vous demandez si vous avez un mentor, mais qui vous a inspiré, qui a été peut-être particulièrement importante dans votre carrière ou dans votre vie personnelle?
Alors, si on parle toujours d'écriture, là, c'est vrai qu'en ce moment, j'apprends énormément au contact de l'écrivain Eugène Baudet. Parce qu'il a un rapport au réel qui est extraordinaire. En fait, il ment consciemment dans ses livres et il met tellement de portes et de tiroirs que ce sont des livres presque comme des cartes touristiques.
Alors dites-nous qui est Eugène et Baudet, parce que c'est vrai que ça n'évoque pas forcément grand-chose, sauf pour quelques spécialistes, je me trompe?
Oui, c'est vrai que je l'ai rencontré en fait. En réalité, je l'ai rencontré avant de le lire et avant de connaître son nom en tant qu'écrivain. Et donc j'ai acheté de lui le livre La Transmission, qui est un livre qui joue énormément sur le vrai et le faux, et qui m'a vraiment beaucoup intéressée du point de vue de cette création-là, justement, puisqu'on parle de création, il est vraiment dans la création, l'aller-retour entre la fiction et la réalité. Et comme on n'a pas du tout sympathisé, enfin on a parlé de secondes, mais après on s'est beaucoup écrit, et d'ailleurs on s'appelle très régulièrement, et j'ai lu tous les autres, et c'est vraiment un rapport comme un aller-retour entre le vrai et le faux. Là, par exemple, il était en train d'inaugurer une rue Rosa Parks, dans un pays africain, et il avait parlé de cette rue qui n'existait pas, mais qui aurait dû exister, dans un roman il y a plus de 10 ans. Et donc, là, maintenant, elle existe, et il est invité à l'inauguration. Et j'aime beaucoup son rapport au réel, parce que son roman, ses romans impactent le réel. Et c'est une autre façon de voir les choses.
Alors, Caroline Chaumarin, on va arriver à la dernière séquence de cette émission, qui est la séquence littéraire, mais j'ai l'impression qu'on l'a ouverte depuis très longtemps. Bah, c'est un peu de ma faute, hein, quand on invite professeur de lettres, écrivain de surcroît. Évidemment, on parle beaucoup, beaucoup de livres, et moi, personnellement, ça me va très bien. Alors, je vous avais demandé juste de nous citer un livre que vous pourriez recommander à nos auditeurs. Et vous avez choisi quelque chose qui me parle aussi énormément, qui est La promesse de l'aube de Romain Gary. Pourquoi ?
Parce que c'est extraordinairement bien écrit, parce que c'est à la fois drôle et terrible, parce qu'en fait, c'est contrasté comme un Caravage, c'est contrasté comme la Martinique, c'est contrasté comme tout ce qui... En fait, comme la vraie vie, et c'est extrêmement bien construit. Et évidemment, en tant que maman, le témoignage d'un fils qui a eu une maman un petit peu alternative m'a beaucoup intéressée.
Je comprends ça.
Voilà.
Je comprends ça. Toujours lire Romain Gary, qui a aussi écrit sous un autre nom, une très belle aventure. Mais le temps est passé très vite, donc on ne va pas trop s'étendre sur Romain Gary. Par contre, nous allons aussi nous donner notre choix, le choix de l'émission Cap Cap, et là c'est Chloé qui s'y est collée, si je puis dire. Chloé, qu'est-ce que vous nous recommandez de lire ?
Alors moi je recommanderais King Kong Theory de Virginie Despentes, que vous devez sûrement connaître, Caroline, je pense,
oui.
Et beaucoup de gens.
Pas le livre, mais l'auteur.
Oui, en tout cas, voilà, je recommande ce livre qui est plutôt un essai, du coup un essai féministe évidemment, quand on connaît Virginie Despentes, qui retrace sa vision de sujets de société comme le viol, la prostitution, la pornographie, la maternité, ou plus généralement ce qu'est la féminité. Et alors, pourquoi ce choix ? J'ai choisi de parler de cet essai parce que je pense que beaucoup de gens se méprennent aujourd'hui sur le féminisme en général et sur les intentions des féministes. Et alors, en essayant d'être concise, on pourrait croire que c'est assez brutal quand on regarde le titre, la quatrième de couve et juste le livre en lui-même. Mais je pense que ça peut ouvrir les yeux à beaucoup de gens sceptiques.
Voilà Virginie Despentes, qu'on a eu le plaisir d'éditer dans ses premières années à la très belle mission maison d'édition Le Diable Vauvert. Caroline Chaumarin est arrivée, on a même dépassé le temps, mais c'est pas grave, on est ici pour le prendre. Et puis, on sent que vous avez, vous avez encore beaucoup sous le pied, donc je pense que je serai amené, si vous acceptez le jeu, à vous réinviter, parce qu'on aura beaucoup d'autres choses à dire, et peut-être cette fois-ci directement en studio, plutôt que par la voix du téléphone.
Oui, avec plaisir.
Merci Caroline Chaumarin, bonjour à l'Andorre, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec Chloé Morand-Bardet, à la réalisation de la vie Tiffaine Lemaine et Marcou qui nous a rejoint. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir Caroline Chaumarin.
Au revoir.
Au revoir, bonne semaine.
Merci.